Mallarmé, divagation. Arthur Rimbaud. Lettre à M. Harrison Rhodes. J'imagine qu'une de ces soirées de mardi, rares, où vous me fîtes l'honneur, chez moi, d'ouïr mes amis converser, le nom soudainement d'Arthur Rimbaud se soit versé à la fumée de plusieurs cigarettes, installant, pour votre curiosité, du vague. Quel le personnage, questionnez-vous? Du moins, avec des livres, Une saison en enfer, Illumination et ses poèmes, naguère publiés en ensemble, quel exerce-t-il sur les événements poétiques récents une influence si particulière que, cette allusion faite, par exemple, on se taise énigmatiquement et réfléchisse comme si beaucoup de silence à la fois et de rêverie s'imposait ou d'admiration inachevée. Doutez, mon cher hôte, que les principaux novateurs, maintenant voire un, à l'exception peut-être mystérieusement du magnifique aîné qui lève l'archet, Verlaine est à quelque profondeur et par un trait direct subir un Arthur Rimbaud. Ni la liberté allouée au vers, ou mieux jaillit-elle par miracle, ne se réclamera de qui fut, à part le balbutiement de tout dernier poème, et quand il cessa à un strict observateur du jeu ancien. Estimez son plus magnifique effet, produit par opposition d'un monde antérieur au Parnasse, même au romantisme ou très classique, avec le désordre somptueux d'une passion, on ne saurait dire rien que spirituellement exotique. Éclat, lui, d'un météore, allumé sans motif autre que sa présence, issu seul et s'éteignant. Tout, certes, aurait existé depuis sans ce passant considérable, comme aucune circonstance littéraire vraiment n'y préparera. Le cas personnel demeure, avec force. Mes souvenirs, ou plutôt ma pensée, souvent à ce quelqu'un, voici, comme peut faire une causerie en votre faveur immédiate. Je ne l'ai pas connu, mais je l'ai vu une fois dans un des repas littéraires en hâte, groupés à l'issue de la guerre, le dîner des vilains bons hommes, certes par antiphrase en raison du portrait qu'aux convives d'Eddy Verlaine. L'homme était grand, bien bâti, presque athlétique, un visage parfaitement ovale d'ange en exil, avec des cheveux châtains clairs, mal en ordre et des yeux d'un bleu pâle inquiétant. Avec je ne sais quoi, fièrement poussé ou mauvaisement de fille du peuple, j'ajoute de son état blanchisseuse, à cause de vastes mains, par la transition du chaud au froid rougi d'engelure, lesquels eussent indiqué des métiers plus terribles appartenant à un garçon. J'appris qu'elles avaient autographié de beaux vers non publiés. La bouche aux plis boudeurs et narquois n'en récita aucun. Comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les râleurs. Des peaux-rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus aux poteaux de couleur. Plus douce qu'aux enfants la chair des pommes sûres, l'eau verte pénétra ma coque de sapin, et des taches de vin bleues et de vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. J'ai rêvé la nuit verte aux linges éblouis, baisers montant aux yeux des mers avec lenteur, la circulation des sèves inouïes et l'éveil jaune et bleu des phosphores chanteurs. Parfois, martyr a laissé des pôles et des zones, la mer dont le sanglot faisait mon roulis doux montait vers moi ses fleurs d'ombre aux ventouses jaunes et je restais ainsi qu'une femme à genoux. Et j'ai vu des archipels sidéraux et des îles dont les cieux délirants sont ouverts aux vogueurs. Est-ce à ces nuits sans fond que tu dors et t'exiles, millions d'oiseaux d'or aux futures vigueurs? et tout, qu'il faudrait dérouler comme primitivement s'étire un éveil génial en ce chef-d'œuvre. Car le bateau ivre était fait à l'époque déjà. Tout ce qui, à peu de là, parerait les mémoires et en surgira tant qu'on dira des vers, se taisait parmi le nouveau venu ainsi que les assis, les chercheuses de poux, premières communiantes, du même temps où celui d'une puberté perverse et superbe. Notre curiosité entre familiers sauvée des mots publics omit un peu cet effet au sujet de qui courait cependant que c'était à 17 ans son quatrième voyage en 1872 effectué ici comme les précédents à pied, non un ayant eu lieu de l'endroit natal Charleville dans les Ardennes vers Paris, fastueusement d'abord avec la vente de tous les prix de la classe de rhétorique par le collégien. Rappel, hors hésitation, entre la famille, une mère d'origine campagnarde dont séparait le père officier en retraite et des camarades les frères Crow, forain futur et toujours irrésistiblement Verlaine. Un va-et-vient résultait, au risque de coucher en partant sur les bateaux à charbon du canal en revenant, de tomber dans un avant-poste de fédérés ou combattants de la commune. Le grand gars, adroitement, se fit passer pour un franc-tireur du parti, en détresse, et inspira le bon mouvement d'une collecte à son bénéfice. Menu fait, quelconque et du reste propre à un ravagé violemment par la littérature, le pire désarroi après les lentes heures studieuses au banc ou aux bibliothèques. Cette fois maître d'une expression certaine, prématurée, intense, l'excitant à des sujets inouïs. En quête aussitôt de sensations neuves, insistait-il, pas connues. Et il se flattait de les rencontrer en le bazar d'illusions des cités, vulgaires mais qui livrent des mots adolescents, un soir, quelques visions grandioses et factices continuées ensuite par la seule ivrognerie. L'anecdote à bon marché ne manque pas, le fil rompu d'une existence en laissa choir dans les journaux. À quoi bon faire, centième, miroiter ces détails jusqu'à les enfiler en sauvage verroterie et composer le collier du roi nègre, que ce fut la plaisanterie tard de représenter dans quelques plats d'inconnus le poète. Vous ambitionnerez de suivre, comme je les perçois, et pour y refuser le plus de telles probabilités, les grandes lignes d'un destin significatif, lequel doit garder dans ses écarts d'apparence le rythme étant d'un chanteur et quelque étrange simplicité. Toutefois, en remerciant de m'aider par votre question à évoquer pour moi-même, la première fois dans l'ensemble, cette personnalité qui vous séduit, mon cher ami, je veux comme exception remémorer une historiette qu'avec des sourires me contait délicieusement Théodore de Banville. La bonté de ce maître était secourable. On le vint trouver. À l'attention d'un des nôtres, et précisait-on en quelques jargons, de permettre qu'il fît du grand art. Banville opina que, pour ce résultat, d'abord, le talent devenant secondaire, une chambre importe où gîter, la loi dans les combles de sa maison ou de Bussy, une table, l'encre et les plumes comme accessoires, du papier, un lit blanc aussi pour les moments où l'on rêve debout, ni sur la chaise. Le jeune homme errant fut installé. Mais quelle la stupéfaction du donateur méthodique, à l'heure où la cour interne unit par l'arôme les dîners, d'entendre des cris poussés à chaque étage, et aussitôt de considérer nu, dans le cadre de mansarde là-haut, quelqu'un agitant éperdument et lançant par-dessus les tuiles du toit, peut-être pour qu'ils disparussent avec les derniers rayons du soleil, des lambeaux de vêtements. Et comme il s'inquiétait près du dieu de cette tenue, enfin, mythologique, « C'est, répondit Arthur Rimbaud, à l'auteur des exilés, qui dut convenir de la justesse impliquée, certainement par cette observation et accuser sa propre imprévoyance, que je ne puis fréquenter une chambre aussi propre, virginale, avec mes vieux habits criblés de poux. » L'hôte ne se jugea correct qu'après avoir adressé des effets à lui de rechange et une invitation devant le repas du soir, car l'habillement outre le logis ne suffit pas si l'on veut produire des poèmes remarquables. Il tarde également de manger. Le prestige de Paris usé, aussi Verlaine, entre de naissantes contrariétés de ménage et quelques appréhensions de poursuite, comme fonctionnaire humble de la commune, certes, décidèrent Rimbaud à visiter Londres. Ce couple y mena une orgiaque misère, humant la libre fumée de charbon, ivre de réciprocité. Une lettre de France bientôt pardonnait, appelant l'un des transfuges, pourvu qu'il abandonnât son compagnon. La jeune épouse au rendez-vous attendait une réconciliation parmi mère et belle-mère. Je crois au récit superbement tracé par M. Berrichon et indique selon lui une scène poignante au monde, attendu qu'elle compta pour héros, l'un blessé comme l'autre délirant, deux poètes dans leur farouche mâle. Priés par les femmes ensemble, Verlaine renonçait à l'ami, mais le vit à la porte de la chambre d'hôtel fortuitement, vola dans ses bras, le suivre, n'écouta l'objurgation par celui-ci, refroidi de n'en rien faire, jurant que leur liaison devait être à jamais rompue, même sans le sou, quoique seulement à Bruxelles, en vue d'une subside pécuniaire, pour regagner le pays, il partirait. Le geste repoussait Verlaine, qui tira égaré d'un pistolet sur l'indifférent et tomba en larmes au devant. Il était dit que les choses ne resteraient pas, je les énonçais en famille. Rimbaud revenait, pensé de l'hospice, et dans la rue, obstiné à partir, reçut une nouvelle balle, publique maintenant, et que son si fidèle expia 2 ans dans la prison de Mons. Soudain, solitaire après cette circonstance tragique, on peut dire que rien ne permet de le déchiffrer, en sa crise définitive, certes, intéressante puisqu'il cesse toute littérature. Camarade ni écrit. Des faits, il devait, selon un but quelconque, retourner en Angleterre avant 1875, qu'importe. Puis gagner l'Allemagne avec des situations pédagogiques et un don pour les langues qu'il collectionnait, ayant abjuré toute exaltation dans la sienne propre. Il atteignit l'Italie, en chemin de fer jusqu'au Saint-Gothard, ensuite à pied, franchissant les Alpes. Séjour de quelques mois, pousse aux Cyclades et malade d'une insolation, se trouve rapatrié officiellement. Pas sans que les Floras, une avant-brise du Levant. Voici la date mystérieuse, pourtant naturelle, si l'on convient que celui qui rejette des rêves par sa faute ou la leur, et s'opère vivant de la poésie, ultérieurement ne s'est trouvé que de loin, très loin, un état nouveau. L'oubli comprend l'espace du désert ou de la mer. Ainsi les fuites tropicales, moins peut-être quant au merveilleux au décor, puisque c'est un soldat racolé, 1876, sur le marché hollandais pour Sumatra, déserteur des quelques semaines, rembarqué au coup de sa prime par un vaisseau anglais avant de se faire audacieusement marchand d'homme à son tour, y amassant un pécule perdu en Danemark et en Suède, d'où rapatriement. en chef des carrières de marbre dans l'île de Chypre, 1879, après une pointe vers l'Égypte, à Alexandrie, et on verra le reste des jours en traitant. L'adieu total à l'Europe, au climat et usage insupportable. Également, et ce voyage au Harare, près de l'Abyssinie, théâtre hier d'événements militaires, où comme les sables s'étend le silence relativement à tout acte de l'exilé. Il trafiqua sur la côte et l'autre bord à Aden. Le rencontra-t-on toutefois, ce point extrême, féeriquement d'objets précieux encore, comme quelqu'un dont les mains ont caressé jadis les pages, ivoire, poudre d'or ou encens. Sensible à la qualité rare de sa pacotille, peut-être pas comme entaché d'orientalisme, mille et une nuits ou de couleurs locales, mais au paysage buse avec soif de vastitude et d'indépendance, et si l'instinct des vers renoncé tout devient inférieur en s'en passant, même vivre, du moins, que ce soit virilement, sauvagement, la civilisation ne survivant chez l'individu à un signe suprême. Une nouvelle inopinée en 1891 circula par les journaux. Que celui qui avait été et demeure pour nous un poète, voyageur débarqué à Marseille avec une fortune et opéré arthritique, venait d'y mourir. Sa bière prit le chemin de Charleville. Accueilli dans ce refuge, jadis, de toutes agitations par la piété d'une sœur. Je sais, à tout le moins, la gratuité de se substituer aisément à une conscience, laquelle dut à l'occasion parler haut pour son compte dans les solitudes. Ordonner en fragments intelligibles et probables, pour la traduire, la vie d'autrui, est tout juste impertinent. Il ne me reste que de pousser à ses limites ce genre de méfaits. Seulement, je me renseigne. Une fois, entre des migrations vers 1875, le compatriote de Rimbaud et son camarade au collège, M. Delahaye, a une réminiscence de qui ceci puise discrètement, l'interrogea sur ses vieilles visées en quelques mots que j'entends comme « Eh bien, la littérature !» L'autre fit la sourde oreille, enfin répliqua avec simplicité que « Non, il n'en faisait plus !» sans accentuer le regret ni l'orgueil. Verlaine, à propos duquel la causerie le pressa, rien, sinon qu'il évitait, plutôt comme déplaisante, la mémoire de procéder à son avis excessif. L'imagination de plusieurs, dans la presse participant au sens habituel chez la foule, des trésors à l'abandon ou fabuleux, s'enflamma de la merveille que des poèmes restassent, inédits peut-être, composés là-bas. Leur largeur d'inspiration et l'accent vierge, on y songe comme à quelque chose qui eût pu être, avec raison parce qu'il ne faut jamais négliger en idée aucune des possibilités qui volent autour d'une figure. Elles appartiennent à l'original, même contre la vraisemblance, y plaçant un fond légendaire momentané, avant que cela se dissipe tout à fait. J'estime néanmoins que prolonger l'espoir d'une œuvre de maturité nuit, ici, à l'interprétation exacte d'une aventure unique dans l'histoire de l'art. Celle d'un enfant, entre précocement touché et impétueusement par l'aile littéraire, qui, avant le temps presque d'exister, épuisa d'orageuse et magistrale fatalité, sans recours à du futur. Une supposition autrement forte comme intérêt que d'un manuscrit démenti par le regard perspicace sur cette destinée, hante, relative à l'état du vagabond, s'il avait, de retour après le laisser volontaire des splendeurs de la jeunesse, appris leur épanouissement parmi la génération en fruits opulents non moins et plus en rapport avec le goût jadis de gloire, que ceux là-bas, aux oasis, les auraient-ils reniés ou cueilli. Le sort, avertissement à l'homme du rôle accompli, sans doute afin qu'il ne vacille pas en trop de perplexité, trancha ce pied qui se posait sur le sol natal étranger, où tout de suite et par surcroît, la fin arrivant, établie entre le patient et diverses voix, desquelles souvent l'appelèrent notamment une du grand Verlaine, le mutisme que sont un mur ou le rideau d'hôpital. Interdiction que, pour aspirer la surprise de sa renommée, et sitôt l'écarter, ou à l'opposé, sans défendre et jeter un regard d'envie sur ce passé grandi pendant l'absence, lui se retourna à la signification neuve proférée en la langue des quelques syllabes Arthur Rimbaud. L'épreuve alternative gardait la même dureté, et mieux la valut-il effectivement omise. Cependant, on doit, approfondissant l'hypothèse, pour y rendre la beauté éventuelle, cette carrière hautaine, après tout, et sans compromission, d'anarchiste par l'esprit, présumer que l'intéressé en eût accueilli avec une fière incurie l'aboutissement à la célébrité, comme concernant certes quelqu'un qui avait été lui, mais ne l'était plus d'aucune façon, à moins que le fantôme impersonnel ne poussât la désinvolture jusqu'à réclamer, traversant Paris pour les joindre à l'argent rapporté, simplement des droits d'auteur.